Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous. Alors que les eurodéputés s'apprêtent à voter une résolution contre la dérive autoritaire en Turquie, Ankara ne calme pas vraiment le jeu. Le président Erdogan accuse régulièrement l'Europe de fuir ses engagements en ce qui concerne l'aide aux réfugiés syriens. 3 milliards d'euros ont déjà été alloués en échange de divers efforts fournis par Ankara. Contrôle de ses frontières, réadmission de migrants échoués sur les îles grecques. L'Europe a promis 3 milliards supplémentaires jusqu'à la fin 2018. Plus d'un cinquième des fonds a déjà été dépensé. Alors comment cet argent est-il utilisé? C'est ce qu'a cherché à savoir Anne Andlauer dans ce reportage à Istanbul.
Parfois, lorsqu'elle reçoit une femme dans son petit bureau du centre de soutien aux réfugiés de Karagümrük, Amina se revoit 3 ans plus tôt arrivant d'Alep après plus de 20 heures de car, épuisée par ses rhumatismes, à bout d'espoir. Amina les reçoit, les écoute, les conseille.
Je leur dis de garder le moral, que je m'en suis sortie et qu'elles aussi peuvent s'en sortir. La plupart se confient pour la première fois. Au début, souvent, elles ne parlent pas, elles n'osent pas. Mais dans l'intimité du bureau, peu à peu, elles se livrent. Elles me racontent ce qui pèse sur leur cœur.
Sous son voile couleur prune, Amina, syrienne de 27 ans, est assistante sociale dans ce centre d'Istanbul qui emploie 25 personnes, dont une infirmière et un médecin syrien. Géré par une ONG turque, il accueille en priorité des femmes et des enfants sur 5 étages de murs blancs. Une fois par semaine, Amina et ses 2 collègues animent une formation dédiée à la santé des femmes, gynécologique notamment. Une 20aine de Syriennes reçoivent des pilules contraceptives, des préservatifs avec des explications. Elles repartent aussi avec un kit sanitaire, dentifrice, savon, peigne, lessive. En détaillant le contenu du gros sac bleu, Ayşe Tilikbilek, la directrice du centre, et Amina, la jeune assistante, s'arrête sur un paquet de protection féminine.
Les serviettes hygiéniques sont trop chères pour une femme qui a à peine de quoi nourrir sa famille. Souvent, elles n'osent pas les demander. Ou bien elles sont adolescentes, privées de leur mère, et elles ne savent pas. Ça paraît rien comme ça, des serviettes hygiéniques. Mais pour une femme, c'est un besoin essentiel.
Moi, ce qui m'a le plus frappée, c'est quand 4 femmes sont venues me voir et m'ont dit « On ne demande aucune aide matérielle, on voudrait juste voir un psychologue ». Les femmes réfugiées ont souvent des problèmes psychologiques. Entendre certaines nous dire « J'ai besoin de voir un psychologue », ça c'est nouveau et ça me réjouit.
Les kits sont estampillés UNFPA, Fonds des Nations Unies pour la Population, qui finance également les formations hebdomadaires et le salaire des employés syriens. L'agence onusienne soutient 23 centres à travers le pays et espère en ouvrir 17 l'an prochain. Elle vient de recevoir pour cela un financement de 9 millions d'euros dans le cadre de la facilité de l'Union européenne pour les réfugiés. Cette dénomination désigne la fameuse enveloppe de 3 milliards d'euros allouée par les États membres et la Commission européenne lors de l'accord migratoire avec la Turquie. À ce jour, 1,2 milliard d'euros de projets ont été contractés, dont 677 millions ont déjà été déboursés. La Commission s'appuie sur plusieurs instruments pour répartir les fonds, mais l'un d'eux est en première ligne, son service d'aide humanitaire et de protection civile, ECHO. En Turquie, ECHO gère à lui seul 26 des 34 projets contractés à ce jour. Jen Lewis est sa directrice.
Nous sommes plongés dans une crise qui se prolonge avec un pays qui accueille 3 millions de réfugiés. La méthode du business as usual n'est sans doute plus adaptée. Il faut penser différemment. Nous devons trouver des solutions durables pour les réfugiés. Je considère ce que nous faisons comme une sorte de laboratoire en matière humanitaire. C'est très enthousiasmant. Ici, nous ne faisons pas de l'aide humanitaire classique, nous faisons de la politique publique humanitaire.
Jen Lewis en veut pour preuve un projet de 348 millions d'euros pour délivrer aux réfugiés des cartes bancaires prépayées, le plus important programme d'aide humanitaire de l'UE à ce jour. Supervisé par le gouvernement turc, le Croissant Rouge turc et le Programme alimentaire mondial, il ambitionne d'aider 1 million de personnes, dont la moitié d'ici à la fin de l'année. 278 millions d'euros ont déjà été dépensés pour ce seul projet. Des chiffres de la Commission contestés récemment par le président turc Recep Tayyip Erdogan, qui ne manque pas une occasion de vilipender l'égoïsme des Européens dans la crise migratoire.
L'Union européenne, certains vont encore râler, mais je dois le dire, ils avaient promis 3 milliards d'euros, ils n'en ont donné que 179 millions. Ils font des promesses, mais ils ne les tiennent pas.
Au service d'aide humanitaire de la Commission, on minimise la polémique. Jen Lewis.
La politique reste la politique. À notre niveau, les choses avancent vite sur le plan technique, en collaboration avec nos interlocuteurs dans les ministères. La Commission et les États membres ont mis cet argent à disposition, donc l'argent est là. J'ai un budget à dépenser en Turquie et nous travaillons bien avec le gouvernement turc. Pour l'instant, nous n'avons donc aucune raison d'être inquiets.
C'est aussi le sentiment du représentant de l'UNFPA Turquie, Karl Kulesa, qui finance les centres pour femmes.
Nous ne pouvons pas travailler sans l'autorisation du gouvernement. Nous avons un accord avec le ministère de la Santé et d'autres ministères. Par exemple, pour recruter un réfugié, il faut que les autorités l'autorisent d'abord à travailler. C'est une transition. L'idée n'est pas de créer de nouvelles institutions, cela n'aurait pas de sens. L'idée, c'est plutôt de fournir une aide là où elle est requise, en attendant que les systèmes publics turcs puissent absorber ces 3 millions de réfugiés.
Pour aider la Turquie à y parvenir, la Commission européenne a d'ores et déjà promis une seconde enveloppe de 3 milliards d'euros d'ici à la fin 2018.
Who do you think would like to stop the dialogue?
Well, I think we know the usual suspects.
Les jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du fond et de la forme. Le fond, c'est cette nouvelle loi votée l'été dernier par l'UE pour encadrer l'utilisation des données personnelles sur le net. Aboutissement d'une longue course de fond qui a vu s'opposer tous les acteurs du dossier, du commissaire lobbyiste en passant par un jeune eurodéputé et avocat défenseur des droits. Et la forme, c'est le film qui en a été tiré, Eve.
Oui, et un travail mis à l'honneur dans un film documentaire présenté la semaine dernière en France, à Strasbourg exactement, dans le cadre du festival Augenblick. Le réalisateur de Democracy, c'est son titre, est suisse et n'en est pas à son coup d'essai. Mais il met bien en lumière les rouages des institutions européennes que l'on décrit généralement comme plutôt opaques et complexes. Son idée, suivre le processus décisionnel de l'accord d'un texte européen sur un sujet exigeant et difficile, puisqu'il s'agit de la protection des données personnelles, en montrant bien les rapports de force qui opposent les différents protagonistes. On écoute un extrait de la bande-annonce.
Data protection is a fundamental right, and the companies have the duty to explain what they do with our data.
European citizens are concerned that their personal data may be misused.
Alors Eve, justement, qui apparaît dans ce documentaire ?
Alors parmi les personnages qui se dégagent du film, on retiendra bien sûr Viviane Reding, vice-présidente de la commission en charge de la justice et des droits fondamentaux à l'époque des négociations, c'était en 2013, un petit peu découragée d'ailleurs devant l'ampleur de la tâche, mais aussi le jeune rapporteur allemand du règlement proposé au Parlement européen, c'est l'eurodéputé vert Jan-Philipp Albrecht, tout juste 30 ans à l'époque. À cette période, ils ne savent pas encore qu'un événement va bientôt bouleverser leur quotidien et leurs réflexions. Un jeune consultant de l'agence américaine du renseignement de la NSA dévoile l'ampleur de la surveillance développée par son agence. Vous l'avez reconnu, c'est donc l'affaire Snowden. Le monde découvre alors que les gouvernements accèdent aux données des internautes stockées par les géants de la Silicon Valley. Vous savez, ce sont les fameux GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple.
Mais le vrai héros du film, c'est peut-être la démocratie ?
Et oui, c'est le titre du film et comme vous l'avez dit, le héros ou plutôt l'héroïne de cette épopée filmée comme un thriller haletant, de réunion en réunion, de débat en débat, on suit le parcours de ce jeune député déterminé qui fait face aux forces colossales déployées par les géants du net sans jamais se décourager. L'enjeu lui aussi est de taille, réguler l'utilisation faite donc par les gouvernements des données de plus de 500 millions de citoyens européens et ce jeune eurodéputé va capter l'attention de Viviane Reding alors que l'opinion publique témoigne un intérêt encore lointain, mis à part l'activisme de quelques militants des libertés sur le net. On y côtoie ainsi Pietro Balboni, un jeune avocat spécialiste du e-commerce et lobbyiste réaliste, on pourrait dire, ainsi que Katarzyna Zimielewicz et Joe McNamee, deux défenseurs des droits civils.
Le film se termine par l'adoption du texte par le Parlement donc, et la victoire du jeune député. Mais 2 ans après, il faut nuancer cette réussite ?
Oui, parce qu'il aura fallu encore 2 années et demie de négociations entre le Parlement et la Commission pour aboutir à l'adoption définitive du texte en juin dernier. Demi-victoire, car même si le film consacre de nouvelles obligations pour les services en ligne et de nouveaux pouvoirs de sanction pour les gendarmes européens des données personnelles, de nouveaux accords sur les transferts de données entre l'Europe et les États-Unis sont entrés en vigueur cet été.
Reste que l'adoption de ce texte est historique et porte déjà ses fruits.
Oui, à la rentrée en septembre 2016, l'Allemagne puis le Royaume-Uni s'en sont pris à Facebook, propriétaire de WhatsApp, qui annonçait vouloir utiliser les données des utilisateurs de l'application de messagerie WhatsApp, donc par la maison mère Facebook. Et depuis, il y a quelques jours, l'entreprise de Mark Zuckerberg a fait complètement machine arrière, indiquant que non, il n'utiliserait finalement pas les données des utilisateurs européens de WhatsApp, du moins provisoirement, un signe qui montre bien que l'Europe s'est érigée en défenseur des données personnelles sur le net et qu'elle arrive à coup de démocratie et de combat idéologique à s'emparer avec passion d'une question aujourd'hui au cœur de nos vies et en particulier au cœur du futur des jeunes européens, quand on l'imaginait encore poussiéreuse et désincarnée.
Merci Eve Minot, à très bientôt sur Accent d'Europe. This is a housing crisis. No pictures on the wall. Nowhere to call our home anymore. En Europe, Dublin reste une capitale de choix pour tous ceux qui cherchent un travail en Irlande, notamment dans le secteur des nouvelles technologies. Le problème, c'est que le logement ne suit pas du tout. Trouver une chambre ou un appartement relève du parcours du combattant. C'est un reportage de Julien Lagache.
« 19h, un soir en semaine, une quinzaine de personnes, celles arrivées en premier, ont déjà pu voir ce studio en rez-de-chaussée sur Grand Canal Street. Les visites se font par groupe de 6 ou 7 personnes à la fois. 900 euros sans les charges pour 20 mètres carrés, la propriétaire l'avoue elle-même, c'est un peu cher, mais elle se justifie, c'est parce que Google et d'autres géants du web sont installés tout près. » Des sociétés qui attirent énormément de travailleurs issus d'Irlande ou d'ailleurs. John est originaire du nord de l'île et cherche justement un job dans le secteur, ainsi qu'un appartement depuis 3 mois.
Les gens voudraient avoir leur propre appartement plutôt que d'avoir à partager une maison. Ils préfèrent encore quelque chose comme cet appart, même si c'est petit et très cher. Ça reste bien situé. Et ce qui est normal ailleurs ne l'est pas ici. Voilà pourquoi c'est difficile de trouver un endroit qui propose plus qu'une chambre, avec la cuisine au pied du lit.
Ne connaissant personne à Dublin, John a dû prendre une location à la semaine en attendant de trouver un appartement. Et comme lui, ils sont des milliers à vivre de sous-location, de couchsurfing, d'Airbnb ou d'auberges de jeunesse, comme celle de Camden Street où Elena travaille à la réception.
La plupart de nos clients arrivent directement de l'aéroport et commencent à chercher un travail et un logement. Et ils me demandent souvent, où peut-on chercher? Est-ce qu'il y a un site internet, un groupe Facebook, quelqu'un à qui s'adresser? On essaie d'aider au mieux.
Le réseau est d'ailleurs ce qui marche le mieux. Par les groupes d'expatriés sur Facebook notamment, où chaque jour on lit de nouveaux appels pour trouver au moins une chambre ou des appels à l'aide. Il faut être à l'affût, réactif, comme sur le site de référence daft.ie, où une annonce peut susciter des milliers de vues et des centaines de mails. Une compétition rude qui a découragé Anya, chercheuse australienne en philosophie venue travailler à l'université de Dublin. Après une centaine de candidatures, une quarantaine de visites de studio pas toujours en bon état et souvent de longues files d'attente, elle a fini par baisser les bras.
J'ai fini par m'installer dans une maison d'hôte tout en continuant les recherches, mais elles n'aboutissent pas. Alors j'ai négocié avec le propriétaire pour avoir un bail longue durée à prix réduit. Je suis très loin de l'université, mais pas autant que certains collègues qui préfèrent habiter Londres, Belfast ou Paris et ne viennent que quelques jours par semaine quand ils travaillent.
Le temporaire devenu permanent, un refrain assez connu dans la capitale irlandaise où, bien souvent, la colocation, voire le partage de chambres, sont le seul recours pour avoir un toit à tarif abordable. Mais l'attractivité de la ville, combinée à une hausse soutenue des loyers et à un parc locatif restreint, met les locataires sous pression. Les déménagements sont fréquents. Fréquent, tout comme les retours à la maison, comme l'a expérimenté Kevin à 29 ans.
On voit bien que de plus en plus de jeunes issus des classes moyennes et ouvrières restent longtemps chez leurs parents, presque jusqu'à 30 ans. C'est une évolution radicale, mais personne, surtout pas le gouvernement, ne semble vouloir y remédier.
De plus, Kevin, qui travaille comme artiste vidéo, estime qu'il y a de moins en moins de place pour les gens du monde culturel à Dublin, car les salaires ne suivent pas du tout l'inflation des loyers, ce que dénonce Peter Dooley, militant anti-austérité qui diffuse régulièrement des tracts sur le sujet dans son quartier de Rathmines.
Rien qu'ici à Rathmines, on trouve plus de 2000 maisons vides et on devrait pouvoir en faire des logements en obligeant les propriétaires à rénover ou à vendre plutôt que de les laisser faire sans les pénaliser. On est à moins de 2 km de St. Stephen's Green, du centre. C'est un quartier de choix. Et pourtant, à quelques mètres de cette maison, à l'angle, il y a des sans-abri qui mendient, alors qu'on pourrait facilement loger ici 8 ou 10 personnes décemment.
Le nombre croissant de sans-abri inquiète d'ailleurs les associations qui estiment qu'entre janvier et septembre 2016, il y a eu 60% de gens de plus à la rue. Et de pointer à nouveau la crise du logement, d'où des suggestions telles que la transformation d'anciennes boutiques en logements ou, comme dans de nombreuses capitales européennes, un contrôle des loyers, une mesure inadaptée, estime Liam, propriétaire à Dublin depuis 25 ans.
Je ne pense pas que le contrôle des loyers puisse fonctionner parce que les prix sont déterminés par l'offre et par la demande. Donc si vous plafonnez les prix, la différence se fera au noir. Les gens proposeront plus que le maximum autorisé parce qu'actuellement la demande est trop élevée.
Offrir un loyer supérieur à celui demandé, la pratique existe en Irlande dans un climat d'intense concurrence. Liam estime donc que seule la construction massive de logements pourra dégonfler la bulle. Seulement, le secteur du bâtiment balbutie encore malgré la reprise économique. Les pouvoirs publics se sont engagés à construire plus et vite, y compris dans le logement social. Mais les experts préviennent qu'il faudra sans doute attendre encore au moins un an et demi pour voir un progrès.
Les Italiens aiment particulièrement les animaux de compagnie, ce qui n'empêche pas la multiplication de chiens errants dans les villes. D'où cette initiative prise à Florence avec la mise en place d'un numéro d'urgence, Cécile Debarge.
Un numéro d'urgence pour signaler chiens, chats ou chevreuils en détresse. Mais qu'avaient donc en tête les Florentins lorsqu'ils ont mis en place ce projet unique en Italie ? La première réponse est simple, offrir aux citoyens ayant perdu leur animal un moyen de le signaler, voire de le retrouver. Et les maîtres de chats ou de chiens sont particulièrement nombreux dans le pays, détaille Enrico Loretti, responsable du projet et des services vétérinaires de Florence.
Dans une ville comme Florence, on a 400 000 habitants, 50 000 chiens environ et 70 000 chats. 70 000
gatti. Des chiffres dans la moyenne par rapport au reste du pays, à ce détail près qu'en Toscane, tous les animaux doivent être enregistrés et déclarés à l'administration depuis 1987.
En Toscane, il y a une loi qui oblige à enregistrer et identifier les animaux domestiques. Cela nous facilite la tâche pour restituer les bêtes à leurs propriétaires et pour tout animal restitué, les frais sont à la charge des maîtres. Donc en réussissant à rendre autant d'animaux à leurs maîtres, nos coûts sont finalement moindres.
Autre priorité définie par le service, identifier les animaux errants qui peuvent représenter un danger pour les habitants ou provoquer des accidents de la route, par exemple. Et pour les prendre en charge, même les forces de police ont été mobilisées, raconte Enrico Loretti.
Sur un millier de membres de la police municipale de Florence, près de 600 ont suivi une formation spécifique avec nous. Ils sont en mesure de faire face à des situations où les citoyens sont protégés par leurs animaux. Ils connaissent les lois, ils savent comment se comporter. Il faut penser qu'il y a 15 ans, quand on a commencé ce programme, il y avait chaque année entre 15 et 20 policiers blessés par des animaux. Aujourd'hui, c'est un ou deux, et même pas tous les ans.
Rapidement, le nombre d'accidents impliquant des animaux est devenu ridiculement bas, au point d'étendre le projet aux alentours de la ville, où le danger vient cette fois des bêtes sauvages.
Florence est en Toscane, et la Toscane possède un grand patrimoine forestier. L'année dernière, on a récupéré environ 250 chevreuils, 2 loups, plusieurs cerfs et près d'un millier d'oiseaux.
Pour le moment, aucune autre région italienne n'a imité l'initiative toscane, même si l'intérêt est certain. Lors des tremblements de terre, par exemple, les services de la ville ont été appelés à de nombreuses reprises dans les Marques ou dans les Abruzzes pour aider les propriétaires d'animaux à retrouver leurs chiens ou leurs chats sous les décombres.
Et comme chaque jour, Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette édition. Accent d'Europe à retrouver demain dès 12h40 temps universel et sur RFI.fr à la page émission. Dans moins d'une minute sur RFI, un nouveau journal.